Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la veille de la nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites, le texte passe depuis ce matin en commission à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui peut être modifié? Qu'est-ce qui ne le sera pas? Alexandre Chauveau sera en direct avec nous dès le début d'Europe Midi. Il devrait y avoir plus d'un million de personnes dans les rues demain, selon nos informations. 11 000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 4 000 dans la capitale. Le détail avec David Montagnier. Qu'est-ce qu'il faut changer dans cette réforme des retraites? Vous appelez le 39-21 et vous passez à l'antenne, on en parlera ensemble. On sera également avec Éric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail, et avec Ludovic Mendès, député Renaissance de la Moselle. Cette annonce faite ce matin dans la matinale sur Europe 1, Olivia Grégoire, ministre déléguée au commerce, a donné des précisions sur, vous savez, le panier anti-inflation. Il n'y aura pas 20, mais 50 produits dans ce panier. Ce ne sera pas une obligation faite aux grandes surfaces. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, la création de ce panier anti-inflation dans les hyper et les supermarchés? Vous appelez le 39-21 et vous passez à l'antenne. À propos de supermarchés, le gouvernement envisage de relancer le débat sur les consignes pour les bouteilles en plastique. Eh oui, soyez là à 12h45. Dans Europe Midi, on va parler des triades, les mafias chinoises. Elles blanchissent l'argent de la drogue et l'argent de tous les trafics en France. On parle de centaines de millions d'euros. Information révélée ce matin par William Molinier de la rédaction d'Europe 1 qui sera avec nous. La tendance météo, Anissa Haddadi avec du soleil pour le sud.
Et forcément, donc, des nuages sur la moitié nord. C'est vrai qu'on a une France coupée en deux aujourd'hui, Romain, avec un temps beaucoup plus gris et humide sur la moitié nord, du soleil au sud, avec beaucoup de vent, mistral et tramontane, et des températures qui gagnent quelques degrés, sauf dans le centre et l'est du pays, où il fait encore frais aujourd'hui.
Merci Anissa, et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
Avant la rue, demain, on va y revenir dans un instant, la bataille sur la retraite à 64 ans a débuté ce matin en commission à l'Assemblée nationale. Les débats s'annoncent agités. 5693 amendements ont été retenus, dont une majorité déposée par la NUPES. Bonjour Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
En direct de l'Assemblée nationale. Depuis ce matin, Alexandre, les 60 députés de la commission des affaires sociales examinent une première fois le texte qui doit arriver le 6 février dans l'hémicycle. Hein.
Oui, et la première observation qu'on peut faire, c'est qu'il y a beaucoup de monde ce matin en commission, si bien que plusieurs députés ont demandé à ce qu'ils puissent travailler dans une plus grande salle. La raison, c'est que les députés de la France Insoumise se sont déplacés en nombre. Ils sont une trentaine, sans que tous ne soient autorisés à voter, mais ils tenaient à participer au débat. Alors les débats, justement, ils ont débuté sur la valeur travail, notamment, avant de basculer sur un débat plus politique sur le sens de la réforme. Écoutez François Ruffin, député LFI de la Somme.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la pure politique, c'est-à-dire dans un enjeu de pouvoir. Quand on fait ça contre tous les syndicats de France, contre 7 Français sur 10, contre 8 salariés sur 10, même contre des patrons, vous vous radicalisez, vous êtes aujourd'hui dans un extrémisme pour imposer cette réforme contre un corps social qui n'en veut pas, que vous brutalisez.
Alors l'autre grande discussion à porter sur le véhicule législatif utilisé par le gouvernement, le fameux projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif qui, vous le savez, limite les débats à 20 jours à l'Assemblée. La gauche dénonce pêle-mêle une arnaque, un braquage et un détournement de procédure. Et puis l'une des autres particularités de ce texte budgétaire, c'est que tous les amendements adoptés en commission ne seront pas retenus lors de l'examen en séance publique. Ce sera donc le texte initial du gouvernement qui sera débattu dès lundi prochain dans l'hémicycle.
Alexandre, Elisabeth Borne a claqué la porte au nez de ceux qui espéraient revenir sur l'âge légal de départ à la retraite. Ce sera 64 ans, point final, a dit la Première ministre. Quelles concessions le gouvernement peut-il tout de même faire ?
Eh bien, c'est ce que la Première ministre et ses conseillers sont en train d'étudier. C'est d'abord la meilleure prise en compte des trimestres pour les congés parentaux ainsi que le sort des Français ayant commencé à travailler avant 20 ans. À l'heure actuelle, ils devront cotiser 44 ans contre 43 ans pour les autres, même s'ils partiront à la retraite plus tôt. C'est notamment l'un des chevaux de bataille des Républicains. Enfin, les autres pistes consistent à élargir les critères de pénibilité pour certains métiers et à augmenter le taux d'emploi chez les seniors. L'index proposé à ce stade par le gouvernement étant jugé pas assez contraignant. Un poids lourd du gouvernement évoque en coulisses la somme de 3 milliards d'euros que l'exécutif pourrait lâcher à condition de faire de nouvelles économies sur ce qui a déjà été arrêté.
Merci beaucoup Alexandre Chauveau, en direct de l'Assemblée nationale. On va continuer à parler de ce qui peut être modifié dans le texte et de ce qui ne le sera pas avec vous au 39-21, avec un représentant de Sudrail et avec Ludovic Mendes, député Renaissance. C'est donc demain que se tiendra la deuxième journée de manifestation contre le projet de réforme des retraites. L'enjeu de cette nouvelle mobilisation, eh bien, c'est de savoir si elle réunira autant, voire plus de monde dans les rues. David Montagnier avec nous. Bonjour David.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Service police-justice d'Europe 1. David, vous avez pu consulter la note des RT, des renseignements territoriaux. Que prévoit cette note en termes de mobilisation ?
Eh bien, tout d'abord, c'est l'objectif des organisations syndicales. Il est clair, selon cette note, c'est conserver le haut degré de motivation de leurs adhérents contre la réforme des retraites. Les syndicats entendent bien sûr capitaliser un début de mobilisation réussi. Entre 1 million et 1 200 000 personnes sont attendues demain dans toute la France. C'était les chiffres de la mobilisation du 19 janvier dernier. À Paris, le renseignement prévoit entre 70 et 100 000 personnes, mais aussi beaucoup en région, à Toulouse, avec 29 000 manifestants, mais aussi Nantes, Marseille et Lyon. Mais ce qui inquiète l'exécutif, c'est la présence d'éléments radicaux, notamment de l'ultra-gauche, qui pourrait venir perturber les cortèges à Paris, mais aussi dans plusieurs villes comme Pau, Brest, Bordeaux, Lille ou encore Montpellier. Enfin, les lycéens pourraient se joindre au mouvement en masse. L'intersyndicale fait appel aux syndicats étudiants pour les inciter à bloquer les établissements via les réseaux sociaux notamment. Autre source d'inquiétude, les gilets jaunes qui pourraient tenter de faire dégénérer les manifestations. Entre 1000 et 1200 sont attendus demain dans la capitale.
David Montagnier, merci beaucoup David. Et Gérald Darmanin a pris la parole il y a une vingtaine de minutes depuis Marseille. Il a annoncé qu'il y aurait 11 000 policiers et gendarmes mobilisés demain, dont 4 000 dans la capitale. Un 31 janvier qui s'annonce donc compliqué dans les gares, les aéroports et les stations de transport en commun, notamment le métro parisien, le métro dans toutes les grandes villes d'ailleurs. Le ministre des Transports, Clément Beaune, le prédisait lui-même hier matin. Bonjour Guillaume Dominguez.
Bonjour.
Vous vous trouvez dans les rues de Paris, plus précisément dans le 15e arrondissement. Comment les Français vont s'organiser pour faire face à cette journée de grève massive ?
Eh bien, à chacun sa solution. En ce qui concerne les transports, par exemple, pour les travailleurs qui ne peuvent pas faire de télétravail, comme Mohamed, vendeur, il faudra changer d'itinéraire demain matin.
J'habite à Villejuif, je vais prendre le bus comme la dernière fois, le 19. Si le tramway marche, je vais prendre le tramway jusqu'à Ballard. Et après, je vais marcher à pied à 15 minutes, à 20 minutes. Ça va être compliqué pour moi parce que moi, je commence à 7 heures. Je vais commencer en retard pour le travail.
Vendeuses également, Clarisse et Stéphanie n'ont pas le choix et vont demander tout simplement à leurs proches de les amener au boulot demain matin.
C'est mes parents qui vont venir me chercher, qui vont m'emmener en voiture. Je suis vendeuse, donc ça télétravaille.
La solution, mon mari, qui va m'emmener venir me récupérer comme la dernière grève. Il va se lever très tôt pour m'emmener et ensuite il va retourner à la maison et ensuite faire son travail pour ensuite venir me récupérer.
Alors Ali, lui, se rendra en voiture au travail comme tous les matins. Problème, la grève des enseignants. Ce père de famille n'a toujours pas trouvé la solution pour faire garder ses deux enfants.
Je vais gérer demain devant le fait accompli. Alors il se peut que j'aille pas travailler si les professeurs sont grévistes. Ça va être le problème. Bon, on comprend la grève puisque moi-même je travaille et travailler jusqu'à 64 ans, c'est peut-être pas un plaisir. Cependant, c'est peut-être nécessaire et donc du coup, on va s'arranger avec.
Alors Ali pourra peut-être bénéficier d'une absence justifiée comme Maxime. La solution est toute trouvée pour ce jeune vendeur de 25 ans. Son patron l'autorise tout simplement à rester chez lui demain.
Je vais pas venir au travail et en fait mon patron va me mettre une absence justifiée vu qu'il sait que demain c'est la grève. Moi je prends le RERC et du coup voilà c'est justifié que je peux pas venir au boulot parce que c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais malheureusement je serai pas payé.
Voilà donc renoncer à un jour de salaire pour faire le choix de la tranquillité c'est un luxe, reconnaît Maxime, que tous ne pourront pas se permettre demain.
Guillaume Dominguez, voilà, en direct des rues de Paris. Et demain, évidemment, on fera une spéciale réforme des retraites et mouvement social demain dans Europe Midi. Midi 9.
Europe Midi. Romain Desarbres.
Le gouvernement travaille depuis plusieurs jours sur un panier anti-inflation qui permettrait aux Français de bénéficier d'une liste de produits du quotidien à prix bas. Ce panier verra-t-il le jour ? Voilà. Verra-t-il le jour ? Excusez-moi. Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et des moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, souhaite que ce panier soit mis en place dès le mois de mars. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin à 8h15 sur Europe 1.
un panier d'une petite cinquantaine de produits, du quotidien, qui correspondrait aux besoins d'une famille avec enfants et qui serait à prix bas et non pas à prix coûtant ou à prix cassé. L'idée n'est pas d'être uniquement sur le prix. J'ai à cœur aussi qu'il y ait des produits de qualité, par exemple des produits frais, possiblement des produits bio, dans des marges importantes, et que ce ne soit pas uniquement un panier petit prix. Moi, ce que je propose aux distributeurs, une action collective, ensemble, à partir du mois de mars, pour 3 mois, pour pouvoir avoir une action sur une cinquantaine de produits, collectivement et concomitamment, pour que les gens puissent aussi se repérer, avoir une balise dans ces prix à la consommation. Ils acceptent cette proposition, tant mieux. Ils ne l'acceptent pas, bah j'en serais fort mari.
Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas? Vous appelez le 3921 et on va en parler. C'est une information Europe 1 que l'on vous révèle aujourd'hui. Le président de la République envisage une dissolution de l'Assemblée nationale avant la fin de son mandat en 2027. Jacques Serret avec nous. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron pourrait rebattre les cartes?
Oui, Emmanuel Macron réfléchit à dissoudre l'Assemblée. Ce n'est pas prévu pour tout de suite, Romain, mais clairement, l'entourage du chef de l'État est quasi unanime en coulisses. Le président actionnera cette option avant 2027, assure un conseiller. Au mieux, selon un stratège du palais, ce serait l'occasion de retrouver une majorité absolue dans l'hémicycle. Au pire, et c'est l'hypothèse jugée la plus probable, le RN remporterait une majorité de sièges. Matignon reviendrait alors à Marine Le Pen. Si elle accepte, c'est le meilleur moyen de l'affaiblir à l'approche de la présidentielle, juge ce conseiller qui poursuit. Si elle refuse, ça montrera qu'elle ne veut pas le pouvoir. En attendant, cette petite musique a l'avantage pour Emmanuel Macron de maintenir la pression sur l'ensemble de l'échiquier politique, à commencer par les candidats à sa succession, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, François Bayrou, qui dans un tel scénario n'auraient d'autre choix que de se concurrencer afin d'obtenir le maximum de sièges pour leurs partis respectifs. La dissolution, c'est l'arme nucléaire, assume un proche du président. Reste qu'un échec de la réforme des retraites au Parlement pourrait contraindre le chef de l'État à actionner son plan beaucoup plus tôt que prévu.
Jacques Serret, merci beaucoup Jacques. C'est une information Europe 1 également. Une bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Les offres de contrats à durée indéterminée, les CDI, les offres de CDI ont explosé l'année dernière. C'est la conclusion d'une étude du cabinet Hello Work qu'Europe 1 vous révélait en exclusivité ce matin dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Margot Faudéré avec nous. Bonjour Margot.
Bonjour.
Alors, 40% des offres d'emploi publiées sur ce site étaient des CDI l'année dernière, soit plus de 3 millions de contrats à durée indéterminée. Hein.
Exactement. Pour vous donner une idée, la proportion d'offres en CDI postées sur le site a augmenté de 6 points en un an. C'est le type de contrat qui a connu la plus forte hausse l'année passée. Alors d'abord, parce que les entreprises ont dû remplir les postes laissés vacants, note David Beaurepaire, le directeur délégué chez Hello Work.
Le fait de devoir remplacer des collaborateurs qui sont plus nombreux à avoir changé de poste ou d'entreprise en 2022, à la fois pour des raisons de pouvoir d'achat et puis également parce que le contexte, un niveau de chômage relativement bas, leur a donné confiance pour pouvoir souhaiter changer d'emploi.
Et puis ensuite, les entreprises ont tout simplement créé de nouveaux postes en CDI en 2022 pour attirer les candidats et lutter contre la pénurie de main-d'œuvre.
Pour certaines compétences, il y a une telle pénurie de compétences que de toute façon, elles ont besoin de proposer un CDI. Et puis on s'inscrit dans un contexte plus moyen terme où sur la démographie, les pénuries de compétences vont être de plus en plus criantes. Et donc, il va être nécessaire d'investir et de proposer des contrats sur un temps long pour attirer notamment ses futurs salariés.
Et la plupart du temps, ces offres ont trouvé preneur. Selon l'URSSAF en France, le nombre d'embauches en CDI a atteint un niveau record et a dépassé la barre des 5 millions l'année dernière.
Margot Faudéré, merci beaucoup Margot. Le gouvernement relance aujourd'hui un débat sur la mise en place éventuelle de consignes pour les boutiques, pour les bouteilles en plastique en France, décidément. Cette mesure, envisagée lors du vote de la loi anti-gaspillage en 2020, avait vite été avortée face à l'opposition des collectivités locales. Nina Droff est avec nous. Bonjour Nina.
Bonjour.
On connaît déjà la consigne pour le verre, hein, les bouteilles en verre. On récupère les bouteilles, on les lave et on les réutilise. Quand on parle de consigne pour le plastique, c'est la même chose ?
Eh bien, pas tout à fait en fait. Le principe ici serait d'acheter sa bouteille d'eau ou de jus quelques centimes plus cher. Et une fois fini, il faudrait déposer sa bouteille en plastique à un automate qui vous rendra le prix de la consigne. Des machines qui seraient par exemple installées sur les parkings de supermarchés. Objectif, inciter les gens à trier leurs bouteilles et augmenter le taux de recyclage du plastique. Certaines initiatives inspirées de ces consignes existent déjà en France. L'entreprise Lemon Tree, par exemple, a développé des automates qui récompensent de quelques centimes les usagers qui rapportent leurs bouteilles. Mais pour le chef de l'entreprise, Augustin Jacquelin, il est urgent de développer un véritable système de consigne de bouteilles.
Aujourd'hui, les taux de tri et donc les taux de recyclage sont encore trop faibles. On est à 60% en France. On a des pays voisins qui ont des taux de recyclage beaucoup plus élevés. En Allemagne, vous avez 98% de taux de collecte sur les bouteilles en plastique. Et tous ces pays, sans exception, ont un dispositif de consigne.
Cependant, cette mesure est décriée par les collectivités locales, on l'a dit. En fait, les communes pilotent les centres de tri municipaux. Si les habitants ne déposent plus leur plastique dans le bac jaune, il y aura moins de plastique à recycler dans les centres et donc moins de revenus pour les communes. Ce sera un des grands débats de cette concertation qui prendra fin au mois de juin.
Nina Droff avec nous. Merci Nina. Le sport et la déception en handball. Pas de 7e titre pour la France, battue hier soir par le Danemark, 29-34 en finale du championnat du monde. Une victoire méritée. C'est même le sélectionneur des Bleus qui le dit. Hein, Guillaume Gilles, fair play, hein, malgré la défaite de son équipe et qui attend déjà sa revanche. Axel May avec nous. Bonjour Axel.
Bonjour.
Les Bleus ont buté sur la dernière marche, mais tout n'est pas acheté. Hein.
Bah non, loin de là. Non. Vice-champion du monde, ce n'est pas rien. D'ailleurs, clin d'œil à l'histoire, la première médaille mondiale de l'équipe de France de handball, c'était déjà de l'argent. Il y a 30 ans, et c'était déjà aussi en Suède, à l'époque avec Jackson Richardson et Pascal Mahé. Cette fois, les fistons étaient sur le terrain, dont Quentin Mahé.
Encore une fois, on ne va pas cracher sur une médaille d'argent. Franchement, on a fait un super parcours. Bah, j'avais dit à papa que je voulais être meilleur que lui ou que je ramène au moins une meilleure médaille. Ça n'a pas marché, mais on est là, on est au rendez-vous encore une fois. On n'est pas loin d'être les meilleurs et on va continuer à bosser.
Alors avec des objectifs déjà cochés, l'an prochain, le championnat d'Europe en Allemagne, suivi à l'été 2024 des Jeux où les Bleus défendront leur titre. L'arrière, Nedim Remili, répond à Martin Lange.
On reviendra l'année prochaine beaucoup plus fort, toujours avec cette excusez-moi du terme, mais c'est mon mot préféré pour cette équipe, cette dalle de gagner, de faire notre maximum pour atteindre notre objectif final qui sera toujours la médaille d'or.
Alors après les handballeurs vice-champions du monde, après les footballeurs vice-champions du monde aussi, la France a encore une opportunité hein, cette année d'être championne du monde avec l'équipe de France de rugby. Ce sera à l'automne prochain.
Voilà, cette dalle de gagner.
Oui, ah, c'est un mot qu'il aime bien, Nedim Remili. Ouais. J'ai la dalle de victoire.
J'ai faim. Hein.
Ouais. Ouais, moi, j'ai faim, sûr. Tout simplement, parce qu'il est midi 40.
Il est midi, oui, c'est l'heure. Enfin, c'est l'heure. Midi 17.
J'ai faim en avance, alors.
Merci beaucoup, Axel May. Europe 1, radio officielle hein, de ce championnat du monde, fier d'avoir accompagné nos Bleus voilà, jusqu'en finale. Tiens, cette information qui tombe à l'instant. Pour naviguer sur Internet ou envoyer des messages en ligne, 87% de la population en France déclare avoir possédé un smartphone l'année dernière. 87% des Français possèdent un smartphone. C'est peut-être votre cas. Il y a 13% qui n'ont pas de smartphone. La bourse, avec vous Didier Hamot. Bonjour Didier.
Bonjour Romain.
Ça donne quoi à Paris ?
Ça baisse un petit peu. Hein. On souffle après le bon début d'année, hein, quand même, plus 10% sur le CAC 40 depuis le début de l'année. Hein. Un début d'année en fanfare. Le CAC 40 recule de 0,6%. 7055 points. Le marché se veut plus prudent avant les réunions monétaires de la Réserve fédérale américaine et de la Banque centrale européenne en milieu de semaine. Des réunions qui seront évidemment scrutées à la loupe. Les annonces autour du nouvel équilibrage de l'alliance Renault-Nissan qui était anticipée par le marché font peu réagir finalement. Renault recule de 2%, 37,40 €. C'est très calme partout. Hein. Peu de variations en Europe. Francfort moins 0,6, Madrid moins 0,2, Milan moins 0,1, le CAC 40 moins 0,6%, 7055 points.
Didier Hamot, merci Didier. À demain. Didier Hamot de boursier.com. La météo avec vous, Anissa Haddadi, avec une France coupée en deux. Hein.
Oui, et sans surprise, hein, c'est sur la moitié nord que le temps est le plus agité avec cette petite perturbation qui apporte beaucoup de nuages entre la Bretagne et la Gironde jusqu'en Alsace. Sur une grande moitié nord du pays, c'est gris avec localement des petites bruines, des petites averses et même quelques flocons entre les Vosges et l'Alsace. La bonne nouvelle, c'est que cet après-midi, le ciel se dégage au nord de la Seine, sur les Hauts-de-France, le nord de la région parisienne, la Champagne. On a quelques beaux rayons de soleil. Dans le sud, rien à dire. Hein. Beaucoup de soleil, un temps très agréable et sec avec du vent Mistral et Tramontagne qui se renforce cet après-midi et qui risque de se renforcer encore la nuit prochaine. Les températures, 13 degrés à Nice, 10 à Rennes, 9 à Paris et Lille, 4 seulement pour Dijon et 2 degrés à Épinal.
Merci beaucoup Anissa, midi 19, restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi. Dans un instant, on va parler évidemment de la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'il faut modifier, si tant est qu'il faille modifier quelque chose selon vous? Vous appelez le 3921 et vous passez à l'antenne. Éric Meyer, secrétaire fédéral Sudrail, sera également avec nous, ainsi que Ludovic Mendes, député Renaissance de Moselle. À tout de suite.